Alors ça, c'est une question qui revient quand même fréquemment.
J'ai un avis extrêmement subjectif.
On va partir aussi de la forêt pour aller à l'écureuil.
Moi, je préfère partir d'une question.
Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
J'ai débarqué chez Julien Pin par une très froide matinée de novembre. Et c'est en chaussettes, les mains se réchauffant autour d'un bon café, le feu crépitant dans un poêle cliquetant, peut-être que vous l'entendrez au fond, que nous avons entamé cette discussion. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur Bruit, un podcast consacré à l'étude de la manipulation de l'information pour un deuxième épisode de la série spéciale réalisée en collaboration avec le Cercle Pégase de Soprasteria. Julien Pin est rédacteur en chef et présentateur de l'émission Vrai ou Fake sur France Info, dans laquelle il traite à la fois de la désinformation et du fact-checking, et notamment du fact-checking politique. Si besoin est de préciser ici, le fact-checking consiste généralement à vérifier la véracité des informations publiques en les confrontant à des sources fiables, des données factuelles et des expertises reconnues. C'est une pratique journalistique qui vise à lutter contre la désinformation en établissant la distinction entre des faits avérés et des allégations non fondées. Et donc Julien Pin est entré dans le fact-checking il y a un peu plus de 15 ans maintenant, alors qu'il rejoignait la rédaction de France 24.
Et en fait, je suis arrivé chez France 24 en disant, voilà, moi je peux vous monter un réseau de, on va dire, journalistes, à l'époque on disait citoyens, de gens qui ne sont pas des professionnels, mais peuvent vous envoyer des informations, notamment de pays où c'est compliqué pour un journaliste d'aller. Donc je m'étais un peu spécialisé dans l'Iran, la Chine, la Birmanie, des pays où il y avait très peu de journalistes. Donc moi j'avais un réseau de citoyens qui permettait d'envoyer des images et des informations de ces pays-là. J'avais ce réseau-là parce que je travaillais avant chez Reporters sans frontières, et que chez Reporters sans frontières, mon boulot c'était de travailler avec ce qu'on appelait des cyberdissidents, donc des gens qui étaient des lanceurs d'alerte dans ces pays-là. Donc voilà, de ma bascule de Reporters sans frontières à France 24, ça a été sur un réseau d'amateurs, sauf que forcément quand on travaille avec des amateurs, on n'a pas un lien de confiance comme avec un journaliste, et donc il y a un lien de confiance qui s'établit, mais qui n'est pas aussi fort qu'avec un journaliste de sa rédaction, évidemment. Donc, on est obligé d'appliquer au contenu qui nous arrive des couches de vérification supplémentaires. Et donc, j'ai été un des premiers, mais là, on parle j'ai commencé, je crois, avec, par exemple, 2009, c'est, je pense, la première révolution iranienne. Et c'est dans ces eaux-là. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas des outils pour vérifier les informations et notamment vérifier des images. Donc, on recevait des images. Il y a eu d'abord la révolution de Safran, je crois, en Birmanie, puis ensuite la révolution iranienne, où on commençait à recevoir des images qui étaient postées sur les réseaux sociaux ou directement qui étaient envoyées sur des sites web. Et on ne savait pas quoi faire de ces images parce qu'on ne savait pas les vérifier. À cette époque, on ne parlait pas d'OSINT, d'enquête visuelle, tout ça, ça n'existait pas. C'était très pragmatique. Moi, j'avais ces images qui m'arrivaient et il fallait que je sois capable de les vérifier. Donc, on a commencé en tâtonnant à inventer des techniques pour vérifier l'info. Des techniques qui étaient à la fois, justement, technologique, donc on essayait d'utiliser le peu de technologie qu'on avait à l'époque. Donc, on commençait à examiner les métadonnées, parce que ça, c'était déjà possible, mais on le faisait manuellement, il n'y avait pas d'outils qui nous permettaient de le faire. On commençait à faire de l'analyse d'images, enfin, c'était les balbutiants. Et puis, en plus de ça, on appliquait des méthodes de journalisme traditionnel. Donc, moi, je passais beaucoup de temps à aller parler avec des gens qui étaient sur le terrain, avec qui je discutais des images, etc. Et donc, c'était vraiment le début d'une analyse technique des images qui se liait avec de l'enquête journalistique classique. Donc, moi, je suis arrivé vraiment dans le fact-checking, par le fact-checking des images principalement, et un peu parce que j'en avais besoin. C'est pas parce que, à l'époque, en école de journalisme, t'apprenais pas ça, et c'était pas du tout une discipline qui était à la mode comme aujourd'hui.
Les événements auxquels fait référence Julien Pin sont la révolution de Safran en 2007 et la révolution iranienne de 2009. La révolution de Safran en Birmanie en 2007 a vu des manifestations contre la hausse du prix de l'énergie se transformer en un vaste mouvement pro-démocratie mené par des moines bouddhistes. Elle tire d'ailleurs son nom de la couleur orangée des moines qui se sont joints en manifestation. Face aux images de la répression qui commença à circuler, la junte militaire a pris une mesure radicale, couper totalement Internet dans le pays. C'est dans ce contexte de vide informationnel que le travail de fact-checking de Julien Pin s'est effectué, confronté au défi de vérifier des informations dans un pays totalement isolé du monde extérieur. En Iran, à l'été 2009, la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad déclenche un mouvement de protestation sans précédent depuis 1979. C'est la révolution Twitter. Pour la première fois, ce réseau social devient l'outil central des manifestants pour s'organiser et diffuser l'information malgré la censure. En réponse, le gouvernement de Téhéran a bloqué de nombreux sites internet, réduit drastiquement la vitesse de connexion et violemment réprimé les manifestations.
Oui, les journalistes font de la vérification dans leur travail, mais moi, c'est ma spécialité et je ne fais que ça, ou quasiment que ça. Quand on est journaliste, on se sert d'outils de vérification, mais on en a beaucoup moins besoin parce qu'on est sur le terrain à faire ce travail-là. Donc on est, on est en Birmanie, on filme une atrocité qui est commise. Bon, bah, c'est nous qui l'avons filmé, on sait ce qui s'est passé et on va parler avec des gens sur le terrain pour vérifier ça. Moi, je reçois une image, j'ai aucune information dessus et il faut que je pars de rien pour vérifier. Et celle-là, c'est la première révolution qui s'est jouée en ligne complètement. Pas de journalistes. Tous les journalistes qui étaient sur place sont faits soit expulsés, soit ils étaient chez eux et ne pouvaient pas aller dans les manifs. Et donc on a reçu énormément d'informations par Twitter. Et puis ensuite ça a augmenté. Il y a eu des passages clés sur les réseaux sociaux où à chaque événement important, il y a eu les révolutions arabes en 2011. Voilà, et à chaque fois on s'apercevait que c'était de plus en plus important d'être capable d'utiliser ces images et de les vérifier.
Deux points me semblent importants à souligner dans l'évocation qui est faite du réseau social Twitter. Un premier, très anecdotique mais assez amusant, c'est que Twitter a été créé en 2006 au sein d'une start-up qui proposait une plateforme d'hébergement web, de diffusion et d'enregistrement de podcasts. Mais bon, c'est surtout moi que ça amuse. Le point important, c'est qu'un élément fondateur pour le journalisme moderne a eu lieu sur Twitter. C'était le 15 janvier 2009. Un jeune internaute de 23 ans publiait une photo avec le message « Il y a un avion dans le Hudson. Je suis sur le ferry qui lui porte secours, c'est dingue. Cette image, devenue virale en quelques minutes, a précédé toute couverture médiatique traditionnelle de l'événement. Comme l'analyse Olivier Chade, cet événement marque l'émergence du journalisme citoyen. L'idée qu'un smartphone et une application de partage suffisent désormais pour documenter l'actualité en temps réel. Ce moment cristallise une révolution dans notre rapport à l'information. N'importe qui peut devenir témoin relais d'un événement d'ampleur et le partager instantanément avec le monde entier. L'impact est tel que Twitter s'installe massivement dans les smartphones des usagers, touchant même les plus hautes sphères du pouvoir avec son adoption par le président américain Barack Obama. Ce basculement dans la hiérarchie de l'information ouvre des possibilités inédites pour la couverture d'événements en temps réel, notamment dans des contextes de censure ou de blackout médiatique, comme on l'a vu plus tard lors des printemps arabes.
Effectivement, il a évolué d'une part en fonction du développement des réseaux sociaux et du ce qu'on appelait journalisme citoyen à l'époque, qui maintenant devient de l'influence, je ne sais pas comment on peut appeler ça aujourd'hui. Bon, ça, et puis ça évolue aussi avec les technologies qui sont développées en parallèle pour vérifier tout ça. Dans mon parcours, j'ai eu cette première phase où j'ai fait du fact-checking parce que j'en avais besoin. Et je ne me suis pas posé de questions philosophiques du tout. Je me suis dit, tiens, ces images, je ne peux pas les passer à l'antenne si je n'ai pas la confirmation qu'elles sont authentiques. Donc, je vais inventer des techniques et puis on va réfléchir à comment vérifier ces images. Ça n'allait pas plus loin que ça. Ça, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et à un moment, je me suis dit, là, il y a beaucoup de gens qui sont mis sur le créneau, on était plein, et puis tout le monde faisait du fact-checking, ça devenait un peu tarte à la crème, c'est-à-dire que tout le monde lançait une cellule de fact-checking. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans un couloir où je me sentais plus à ma place parce que j'avais l'impression que la plupart des gens se battaient pour trouver une information qui était fausse, et même si elle n'intéressait personne, allait forcément passer du temps à la vérifier. On finissait par vérifier des choses, pour moi, qui étaient ridicules, c'est-à-dire qu'on allait dire... reparler pour la énième fois de « on a marché sur la Lune ou pas », donc de théories complotistes qui étaient résiduelles, finalement, on leur donnait de la publicité. On allait dire « ce chiffre de Marine Le Pen, elle a dit 140 000, en fait, c'est pas 140 000, c'est 150 000 ». Et pour moi, ça n'avait plus d'impact, parce qu'on se mettait à vérifier tout et n'importe quoi, et on allait dans le détail qui n'intéressait plus personne, et c'est pas pour ça que j'avais fait ce travail. Donc moi, je suis sorti du fact-checking pendant 4-5 ans. J'ai fait autre chose, j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai aussi géré des équipes qui faisaient de l'info classique. Et puis j'y suis revenu, mais avec une philosophie différente, c'est-à-dire que le fact-checking m'intéresse parce que c'est une bonne porte d'entrée pour expliquer le réel tel qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dire oui, c'est vrai ou c'est faux ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est... Alors, les gens pensent ça... Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur la réalité ? Donc, pour prendre un exemple, là, aujourd'hui, on a fait un fact-check sur Marine Le Pen a donné un chiffre sur ce que coûtait à la société française l'aide d'État aux retraités étrangers. Bon. Le chiffre est finalement pas tellement important. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on apprend qu'est-ce que c'est que cette aide, comment elle est distribuée, qui la touche, qui ne la touche pas. On s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui, en fait, la demandent même pas, alors qu'ils y auraient droit. Bon, et en fait, c'est ça, que ça apprend des choses sur la société actuelle. Donc, c'est une porte d'entrée que je trouve intéressante pour apprendre des choses. Et la deuxième chose qui m'intéresse toujours, c'est la lutte contre la désinformation, c'est-à-dire comprendre les vrais enjeux qui se cachent derrière la désinformation, qui en bénéficie, qui fait de l'argent avec, quelles sont les politiques qui manipulent ça, quelles sont les forces dans notre société qui sont mises en branle par ces réseaux de désinformation. Donc la désinformation profonde, ça m'intéresse. Mais le côté, je prends n'importe quelle affirmation qui circule et je la vérifie, je trouve qu'on se bat contre des moulins à vent, et ça, j'ai arrêté de le faire. Ouais.
Je me permets une incise ici. Je trouve que la position sur le fact-checking de Julien Pin est plus riche dans sa manière de montrer ce que les événements manipulés et la manière dont ils sont manipulés racontent quelque chose de nos sociétés et de leurs préoccupations. D'autant plus que, personnellement, mais en vérité je ne suis pas la seule, je me pose des questions sur l'impact du fact-checking. Or, quand cette question revient dans des discussions ou pendant des conférences, j'ai souvent entendu mes interlocuteurs citer la loi de Brandolini, avec un air docte. Cette loi dit ceci, pour reprendre les termes de Brandolini lui-même, « la quantité nécessaire pour réfuter la connerie est d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour la produire. » J'avoue que, comme Brandolini, ça sonnait un peu comme Bernoulli, qui est un théorème qui n'a rien à voir avec la choucroute, j'étais persuadée qu'il s'agissait d'une loi ou d'un théorème mathématique démontré. En fait, pas du tout. Il s'agit d'un aphorisme issu du tweet d'Alessandro Brandolini en 2013, qui est un programmeur et un entrepreneur italien. Et en fait, c'est un constat empirique, qui semble très vrai, mais dont le nom laisse à penser qu'on a affaire à un truc hyper scientifique, la loi de Brandolini, alors que non. Bref, j'étais un peu déçue, mais revenons à Julien Pin.
Il faut s'interroger sur l'impact qu'il a eu pour contrer ces phénomènes de désinformation. Est-ce que c'est efficace ? Je pense que tout ce qui est de démonter les processus profonds qui permettent à cette désinformation d'émerger, je pense que ça c'est important, qu'on comprenne pourquoi cette désinformation, elle se propage plus qu'avant, qui la propage, qui gagne de l'argent avec, quels États ont intérêt à ça, quelle est l'efficacité de leur stratégie, parce que pour pouvoir les contrer, il faut qu'on les comprenne. Donc ça, je pense que la lutte contre la désinformation, c'est utile. Moi, le fact-checking, c'est vrai, c'est faux, en permanence, sur n'importe quelle bêtise qui est racontée sur les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai voulu arrêter. Parce que je pense qu'au compte, ça ne sert à rien, parce que déjà, c'est beaucoup de temps de travail pour peu de temps de création de fake news. Ça prend 2 secondes de créer une fake news et ça prend beaucoup de temps de la démonter. Donc c'est finalement, c'est aussi une façon d'essouffler les journalistes puisqu'on va travailler sur des choses qui n'auront pas d'impact c'est du temps de travail qui ne sert à rien. Et puis en plus, le risque, c'est qu'on donne de la popularité à des petites intox qui finalement n'avaient pas circulé tant que ça. Mais je pense que maintenant, les fact-checkers, on est tous assez au courant de ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ont abandonné le fact-checking pour faire autre chose, les décodeurs du Monde faisaient du fact-checking. Et je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas utile la façon dont ils le faisaient. Ils sont partis faire autre chose. Moi, à titre personnel, comme je l'ai dit, j'ai arrêté pendant un moment de faire du fact-checking pour revenir avec une nouvelle conception de ce travail-là. Et donc, je ne fais plus du tout la même chose que je faisais avant. En revanche, je pense qu'il ne faut pas arrêter parce qu'il y a une certaine partie de la population qui est déjà très embrigadée, très idéologisée, très trumpisée. Ceux-là, je pense que c'est probablement inutile de leur donner du fact-check et de leur dire ça c'est faux pour telle et telle raison. Il n'y a pas de discussion possible parce qu'ils sont dans l'utilisation de ces fake news comme d'une arme politique pour aller abattre un système qu'ils ne supportent pas. Bon. En revanche, il y a toute une partie de la population qui gravite autour, qui en fait se retrouve sur les réseaux sociaux confrontés à cette désinformation, comme confrontés à des publications qui viennent de médias mainstream, et ils sont un peu entre les deux, et ils oscillent entre les deux. Je pense que pour ces gens-là, c'est très important qu'on continue à être là pour dire il y a une réalité qui est décrite, qui est prouvée scientifiquement, qui est prouvée par de l'expérience de terrain, qui a été vérifiée, je vous la donne, et ensuite, pour que ça puisse contrecarrer ce qu'ils peuvent voir de la part des informateurs. Voilà. Donc moi, je continue à penser que c'est utile, mais je pense que il faut bien réfléchir à notre pratique pour ne pas tomber dans le jeu des gens qui nous désinforment, qui ont intérêt, je pense, à ce qu'on bosse pour rien.
Les propos de Julien Pain me font immédiatement penser à Doppelganger. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cet acteur qui agit depuis février-mars 2022, je vous conseille les ressources du site de l'ONG bruxelloise EU DisinfoLab, dont je mettrai les liens dans le commentaire du podcast. L'opération Overload, donc, est, ou était, parce que j'avoue qu'en fait je ne sais plus si elle est encore active aujourd'hui, une vaste campagne de désinformation créée par Doppelganger, qui a ciblé plus de 800 organisations médiatiques en 2024. Et sa stratégie était double, à la fois inonder les fact-checkers de fausses informations dont ils demandaient la vérification et tenter de faire amplifier les récits à travers les publications ou le debunking de ces fact-checkers. Elle a principalement ciblé l'Europe de janvier à septembre 2024. Et cette opération s'est appuyée sur des techniques assez sophistiquées en créant des contenus qui donnaient l'impression d'être réels, des faux graffitis, des vidéos qui étaient publiées sur Telegram ou sur X et relayées sur des sites d'information également créés pour l'opération, afin de donner l'illusion d'une large présence en ligne. Les fact-checkers étaient ensuite alertés par des vagues d'emails les incitant à vérifier les contenus.
Nous, on est sollicité en permanence par des gens qui nous demandent de vérifier des choses. Et je pense que le meilleur antidote que j'ai, moi, c'est que j'ai arrêté de vérifier les choses qui sont de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ils vous demandent de vérifier des choses qui sont un peu caricaturales pour que vous perdiez votre temps dans leur caricature. Et on le sent, en fait. Et moi, comme la caricature m'intéresse assez peu, que les choses qui sont noires et blanches m'intéressent pas, c'est mon antidote. Je pense pas que j'ai trop passé de temps à ça. Moi, ça m'intéresse plus de faire des enquêtes un peu plus au long cours. Donc non, je pense pas que ça m'ait impacté. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec cette campagne sur laquelle vous avez travaillé. C'est quand même difficile d'évaluer l'impact qu'elle a eu. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a une débauche d'énergie pour créer des faux sites, pour créer des faux comptes, pour créer des faux narratifs. Qui ça a vraiment touché en Occident? Franchement, je pense pas tant que ça. Je sais pas. Je suis pas sûr que ces opérations russes, de trolls russes, et forcément eu un impact énorme sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres choses qui fonctionnent très bien. Je pense qu'ils sont capables d'approcher des gens directement par des méthodes de renseignement assez classiques qui deviennent leur levier en France. Les opérations qu'ils ont menées sur, par exemple, aller taguer d'étoiles de David dans la rue, je pense que ça c'est très efficace, parce qu'effectivement pendant 24 heures ou même plus, tout le monde s'est excité sur cette idée, ça a jeté de l'huile sur le feu, ça crée de la confusion, c'est assez peu coûteux pour eux, parce que finalement il suffit d'un mec qui tague quelques étoiles, ensuite on fait quelques tweets dessus et ça prend tout de suite. Ça je pense que c'est très efficace. Après, créer des faux médias dans tous les sens, ça je suis pas tout à fait sûr que ça ait vraiment marché. Je ne sais pas comment ça s'est développé, mais on voit que les narratifs russes, ils ont pris une ampleur phénoménale, mais je pense que ça c'est principalement par leur soutien de l'extrême droite française. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont infiltré l'extrême droite française, et l'extrême droite française se sert de ces thématiques-là pour faire avancer son agenda politique, et on voit très bien qu'ils se sont engouffrés dans la brèche. Je parle de la Russie. Après, l'extrême gauche française a d'autres thèmes de désinformation, mais sur la Russie, je trouve qu'il y a une collusion qui s'est créée, qui est très efficace, parce que l'extrême droite française est très très présente et très organisée sur les réseaux. Ils ont gagné la bataille des réseaux sociaux, je veux dire, c'est eux qui dominent la plupart des réseaux grand public, et je pense que la Russie, c'est greffé dessus, et ça a été très efficace, parce que leur narratif qui arrive par cette extrême droite française, là, il se diffuse énormément, beaucoup mieux que par des trolls ou des faux sites qui, en fait, ont peu d'impact en France. Alors que par l'extrême droite, ça a beaucoup d'impact. On a une extrême droite qui a monté très fort en France. Si ce vivier, il est énorme pour la propagande russe.
Ce que dit Julien à ce moment-là me fait tout de suite penser au travail de recherche de Dusan Bozalka. Dusan Bozalka est doctorant en sciences de l'information au sein d'un laboratoire de l'université Panthéon-Assas et également doctorant associé à l'IRSEM, Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Dusan cartographie entre autres la création de récits élaborés par la Russie et repris de manière opportuniste par des influenceurs complotistes qui engomment l'origine afin d'obtenir des contenus pour leur propre réseau et ainsi alimenter leur sphère d'influence. Je n'en dirai pas plus sur les travaux de Dusan Bozalka, car j'aimerais vraiment faire un épisode avec lui, et d'ailleurs avec Olivier Tchaïd aussi, mais ça c'est une autre histoire.
Oui, c'est valable aussi pour les antivax, qui en fait, quand la thématique antivax a été moins porteuse, se sont retrouvés avec une audience qui... Parce que je pense qu'il y a aussi ça, il y a un côté très égotique, c'est-à-dire qu'on a envie que son audience continue à réagir au moindre de ses posts, et ça c'était... On sentait que les leaders de la désinformation sur la pandémie... Il y avait une baisse de traction sur ce qu'ils racontaient sur la pandémie parce qu'on était passé à autre chose. Et là, effectivement, ils sont allés taper dans les bibliothèques de fake news russes ou autres, d'ailleurs. S'il faut taper chez les Chinois, ils tapent chez les Chinois. Et finalement, l'idéologie derrière, elle aura moins d'importance, quoi. En tout cas, ils vont se le réapproprier pour que, de toute façon, ça serve leurs objectifs à eux, quoi. Que ce soit des objectifs simplement de faire un peu d'argent sur les réseaux sociaux, de se faire connaître et d'avoir une sorte de machine à clic qui va booster votre ego, ou parce que vous avez un objectif politique, que ce soit à droite ou à gauche, et que vous voulez occuper le terrain. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'acteurs de la désinformation qui maintenant vivent de ça, soit par des cagnottes en ligne. Je pense qu'il y a vraiment des enquêtes à faire sur la façon dont les cagnottes en ligne sont utilisées. Moi, il y a deux trucs choses qui m'intéressent. C'est déjà l'ampleur des cagnottes en ligne, à quel point des gens comme Casasnovas ou n'importe quelle personne qui a une audience importante peut utiliser ces cagnottes en ligne pour se financer. Casasnovas, c'était délirant. Il a recueilli des centaines de milliers d'euros en quelques jours. Alors qu'il fait de la désinformation médicale tout le temps.
Julien Pain parle ici de Thierry Casasnovas, vidéaste et entrepreneur qui s'est fait connaître sur YouTube depuis 2010. Sans aucune formation médicale, il diffuse des théories dangereuses, prétendant que toutes les maladies peuvent être soignées par le crudivorisme et le jeûne. Surveillé par la Mévilude, qui a reçu des centaines de signalements, il a été mis en examen en mars 2023 pour exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. Pendant la pandémie de Covid-19, il s'est particulièrement illustré en propageant des théories conspirationnistes et en prétendant qu'on pouvait soigner la maladie avec des bains froids et du jus de carotte. Ses activités font l'objet d'une enquête judiciaire en cours.
C'est des communautés très soudées, donc ça marche très très bien. Et puis après, autre chose, c'est que j'aimerais bien savoir si dans ces cagnottes, il n'y a pas parfois la main de forces étrangères. Et je ne peux pas le prouver, mais je ne serais pas étonné que lorsqu'un gros désinformateur français lance une cagnotte, des pays comme la Russie aient intérêt à mettre un peu d'argent, parce que c'est une façon très simple de financer de la désinformation en France. Et je sais que Tracfin travaille dessus, ils essaient de savoir. Moi, j'ai pas les résultats, mais ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils trouvent.
Donc, avec Julien, on a parlé de la manipulation de l'information, des mécaniques du fact-checking et de ces influenceurs qui prospèrent sur la désinformation, que ce soit pour de l'argent ou pour nourrir leur ego. J'aimerais maintenant qu'on aborde un cas concret qui concentre tous ces enjeux, le traitement médiatique de l'élection présidentielle américaine.
La campagne américaine, je l'ai beaucoup suivie, mais comme j'avais suivi toutes les campagnes américaines depuis 20 ans, je l'ai suivie de deux façons. Alors, par l'émission que j'ai, donc on a fait des enquêtes sur les personnages qui gravitaient autour de Trump, sur ses réseaux d'influence, sur la façon dont... sur évidemment ces fake news et qu'est-ce qu'elles disent du peuple américain. C'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai fait aussi du reportage sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se jouait. Je suis allé à Springfield, qui est l'endroit... donc la petite ville de l'Ohio, dont Trump avait parlé dans un débat télévisé, il avait raconté que les migrants haïtiens mangeaient des chiens et des chats.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame.
Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a choisi Springfield. Springfield, c'est un laboratoire des États-Unis où tu as une petite ville de 60 000 personnes dans laquelle, sur les 5 dernières années, il y a 15 à 20 000 migrants qui sont arrivés. Alors, on peut dire « Oh non, ça n'a aucun impact » et se focaliser sur cette question de chiens et de chats mangés. Mais en fait, ça a un impact sur une petite ville, forcément. Et si on ne comprend pas l'impact que ça a eu sur les populations, bah forcément, et qu'on ne traite ça que par l'angle de la fake news, on passe à côté du sujet. Et le sujet, je ne vais pas le refaire ici, j'ai fait un long reportage là-dessus, mais en gros, c'est que oui, ça a eu un impact, et sur les gens les plus défavorisés déjà de la ville. Et ça te fait comprendre à quel point les démocrates ont perdu complètement la connexion avec cette population-là. Parce que pour les démocrates, il n'y avait aucun problème avec l'immigration qui arrivait dans cette ville, parce que eux, ils en bénéficiaient plutôt. Les grandes sociétés employaient des migrants, l'immobilier a progressé. Donc pour les démocrates, les riches démocrates, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'en fait, ils ont ignoré le fait que l'Amérique des petits blancs, elle souffre de ça. Et en tout cas, ou elle le souffre de façon imaginaire, c'est qu'on leur dit que c'est à cause des migrants, mais en tout cas, elle le voit comme un problème. Et donc, moi je trouve que dans ce cadre-là, la fake news t'amène à découvrir une vraie réalité de l'Amérique. C'est un point de départ, quoi. Après, autre chose qui est très intéressant avec ce qui s'est passé lors de cette élection, c'est que là, on voit que Trump, il a encore passé un palier qui est très très clair. C'est-à-dire que autant le premier gouvernement Trump, c'était Trump qui était l'espèce d'électron incontrôlable au sein d'un gouvernement où finalement, il y avait quand même un peu des adultes dans la salle qui contrôlaient un peu tout ça. Là, si on regarde le gouvernement qu'il est en train de monter, c'est presque lui le plus raisonnable. Ça part dans tous les sens. Et c'est des gens qui font de la désinformation dans tous les sens. Robert Kennedy Jr., qui est ministre de la Santé, c'est lunaire. Il est anti-vax, il dit n'importe quoi sur des questions scientifiques. Bon. Donc on est encore à un autre niveau. Et on le savait que Trump, il utilisait la désinformation comme une arme pour, en fait... abattre un peu les élites et la société, se battre contre ce qu'il appelle l'espèce de conformisme des médias, etc. Bon, lui, il s'en sert vraiment comme une sorte de poison qui va faire s'écrouler un peu notre respect et croyance en la démocratie américaine ou française telle qu'elle existe. On savait que ça avait très bien fonctionné en 2016. Il l'a refait, ça a fonctionné. Mais je crois vraiment que là, on est passé dans une autre ère. Parce que vraiment, quand on discute avec des Américains, je crois qu'on est vraiment arrivé dans un moment où finalement, ce que raconte Trump n'a plus aucune espèce d'importance. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que même pour eux, c'était une arme. On va abattre le système parce que le système nous méprise, parce que le système nous laisse de côté. Là, on est vraiment dans un moment crucial où il faut réfléchir à pourquoi ces gens, ils ont besoin d'abattre le système. Et si on ne comprend pas ça et on ne lutte pas contre le problème de fond, c'est pas avec des mecs comme moi qui font du fact-checking qu'on va changer grand-chose, je pense. Ouais.
Même si notre rapport aux médias est différent, on n'a pas la même culture du free speech, ni la même histoire avec les radios libres et les podcasts aujourd'hui, qui sont très ancrés là-bas. Est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger en France les mêmes dynamiques de rapport à l'information ? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une élection présidentielle aussi polarisée par la désinformation que celle des Américains ? C'est la question que je pose à Julien Pain.
Ah, moi, je pense qu'on est sur la même pente, clairement. Hein. Mm-hmm. Il y a des différences entre la société française et la société américaine sur l'éducation pour tous. Bien sûr qu'aux États-Unis, il y a un niveau d'éducation, je pense, global qui est probablement plus faible qu'en France. C'est à vérifier, mais enfin, il y a des disparités encore plus énormes qu'en France entre ceux qui sont très éduqués et ceux pas du tout éduqués. Ils ont une croyance dans le libéralisme et la liberté d'expression qui est beaucoup plus importante que nous. Donc il y a des différences. Mais sur le fond et la place que prend la désinformation, je pense qu'on est vraiment sur la même pente que les États-Unis. Alors oui, sur les podcasteurs, là, vous faites référence au fait que le podcast aux États-Unis est beaucoup plus puissant. Oui, avec des gens comme Joe Rogan, Laura Loomer, des gens qui font des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux et qui arrivent à gagner de l'argent avec.
Laura Loomer est née en 1993 et est une militante d'extrême droite américaine, connue pour des prises de position controversées et ses théories du complot. Bannie de plusieurs réseaux sociaux pour des discours de haine, elle est une figure influente, particulièrement dans son soutien à Trump pour l'élection de 2024. Joe Rogan, quant à lui, est devenu un phénomène médiatique grâce à son podcast The Joe Rogan Experience, le plus écouté sur Spotify avec plus de 11 millions d'auditeurs mensuels. Ancien animateur de télévision, il s'est imposé comme une figure controversée du débat public américain, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Sa tendance à inviter des personnalités bannies d'autres plateformes et à relayer des théories contestées a provoqué une crise majeure début 2022 quand Neil Young a retiré sa musique de Spotify en protestation contre la désinformation véhiculée dans son podcast. Spotify a choisi de garder Rogan, pour qui elle aurait déboursé 100 millions de dollars.
Je pense que c'est principalement une question de modèle économique. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a créé un modèle économique qui permet à ces gens de se rémunérer, ça fleurit. Aux États-Unis, ça a fleuri beaucoup plus vite parce que c'est une société qui, en fait, en termes d'innovation, de business model, va beaucoup plus vite que la nôtre. Elle évolue beaucoup plus vite. Donc, ils ont trouvé ce créneau. Mais enfin, ça va arriver en France. On le voit, les influenceurs prennent une place de plus en plus déterminante dans le paysage médiatique. Pour l'instant, les influenceurs qu'on connaît ne sont pas forcément des influenceurs les plus gros qui font de la désinformation ou qui font de la politique, etc. On n'en est pas là. Mais moi, je suis assez persuadé que ça va arriver. Parce qu'une fois que le business model il sera bien établi, il y a des gens qui vont se saisir de ça et on aura nos Joe Rogan. Hanouna est un peu une sorte de Joe Rogan de la télé. Et lui, si jamais à un moment il se sent suffisamment fort, et je pense qu'il va l'être, il va créer un podcast tout seul. Parce que quel intérêt il a finalement de rester dans une télé s'il y a un moment il peut dire je crée mon podcast comme Joe Rogan, ça sera sans limite, sans contrôle, le CSA, l'ARCOM ne fera plus rien et on va y aller. Et puis après, quand on regarde la qualité du débat politique français, effectivement, on n'en est pas au niveau des États-Unis. On n'a pas encore un Trump qui a complètement ravagé le débat politique en le propulsant à coups de fake news et de phrases toutes faites et puis d'espèces de spectacles. C'est une société du spectacle, les États-Unis. Donc Trump, c'est un spectacle. Et la société américaine accepte ça, accepte que le divertissement prenne le pas. Bon, on n'en est pas là, certes, en France. Il n'y a aucun homme politique qui joue le spectacle à ce point-là et qui décide que finalement, le spectacle est plus important que les faits. On n'en est pas là. Mais enfin, il suffit d'écouter Éric Ciotti il y a quelques semaine sur C'est à vous, qui disait, il répondait à Patrick Cohen, il disait, ok, vous avez les faits, mais moi je pense qu'il y a plusieurs interprétations des faits. Là, quand on commence à dire ce genre de choses, on est totalement du Trumpisme, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est les faits, c'est moins important que les opinions, et que mon opinion vaut autant que les faits. Éric Ciotti, c'est l'ancien président des Républicains, donc c'est plus des gens marginaux comme Florian Philippot, qui jouait un peu avec ça, mais qui était relativement marginal. Maintenant, des hommes politiques de premier plan commencent à tenir ce genre de discours, parce qu'ils sentent que ça marche, que c'est efficace pour prendre le pouvoir. Donc voilà, il y a encore des garde-fous, mais moi je ne serais pas très serein, non. Non, non.
Le modèle politique de Trump est donc comparable à un spectacle où l'outrance prend le pas sur les faits et les projets réfléchis, avec des influenceurs politiques qui utilisent des outils comme les podcasts pour diffuser de la démagogie et séduire les électeurs. C'est un phénomène inquiétant et qui pourrait facilement séduire et se diffuser en France, par exemple. Mais je me rends compte que j'ai oublié de poser une question importante à Julien Pin pour apporter des précisions sur sa manière de travailler. Quelle différence fait-il entre son travail sur la désinformation et le fact-checking ? Selon lui, le travail sur la désinformation est un travail d'enquête journalistique classique, mené sur le terrain et dans le temps long, pour comprendre les mécanismes sous-jacents. Tandis que le fact-checking, lui, est plus réactif, centré sur le court terme, et vise à rétablir la vérité des faits rapidement.
Dans le fact-checking, il y a une méthode qui est plus, peut-être sommaire, mais qui est efficace. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, d'appliquer une méthode qui va faire que très rapidement, on va pouvoir vérifier une affirmation d'un homme politique ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment deux façons de travailler assez différentes, je trouve. Ouais.
Autre question importante, comment Julien choisit-il ses sujets ?
Alors, sur le choix, il y a plusieurs facteurs. La première chose, avant même de faire son choix, c'est qu'il faut avoir conscience de ses biais personnels. Et ça, c'est quelque chose, moi, sur lequel je suis interrogé régulièrement et sur lequel je suis très, très en alerte. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que, même si on se présente comme neutre, les fact-checkers, puisqu'on va dire, a priori, on pourrait se dire, je prends un sujet et je regarde si c'est vrai ou faux, de façon entièrement factuelle, donc je suis neutre. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que, effectivement, le travail en conférence de rédaction, c'est là que se décide le choix des sujets. Je peux très bien décider de ne vérifier que des informations qui sont un peu à l'encontre de mes valeurs, en me disant « Ah, là, ça me plaît pas comme information, je vais montrer qu'elle est fausse. » Et puis on va oublier d'aller travailler sur les informations, au contraire, desquelles on se sent proche, ou des personnalités dont on se sent proche. Et donc ça, il faut faire extrêmement attention à ce biais. Je dis pas que j'arrive à le gommer complètement, mais en tout cas, j'ai conscience du biais et j'essaie de faire le maximum pour le gommer. Et on n'est pas parfait, donc je suis sûr que c'est pas parfait. Mais une fois qu'on a conscience de ça, qui est la base, ensuite, c'est vraiment un travail. Nous, on est des journalistes, donc on fonctionne par rapport à une actualité du moment. Et chaque journaliste qui travaille sur un format a une actualité différente et une temporalité différente. Donc, par exemple, quand on travaille à complément d'enquête ou à cache investigation, on travaille sur plusieurs mois. Donc, ça reste l'actualité, mais au temps long. Quand on travaille dans une chaîne info, on peut travailler à la journée. Donc il faut que Mélenchon a dit quelque chose le matin, il faut que le soir j'ai la vérification. Et puis après moi j'ai une hebdo, donc c'est encore un autre temps qui fait qu'on doit être dans l'actualité du moment sans être forcément collé à celle du jour. Une décision que je prends de se lancer sur un sujet le lundi, en général le jeudi je vais avoir c'est la date d'enregistrement de l'émission, je vais avoir le sujet, mais je peux très bien dire aussi, on va prendre 3 semaines, et sur ce sujet-là, tant pis si c'est dans 3 semaines. Donc j'ai ce luxe-là de ne pas être obligé de faire des choix. Parce que dans la lutte contre la désinformation, si je devais faire tout à la journée, ça ne marcherait pas. L'enquête prend du temps. Ce qui est très important à comprendre quand on parle du journalisme, c'est comprendre la complexité du journalisme et comprendre les différents métiers qui existent dans le journalisme, les différentes temporalités.
Le fact-checking se révèle être bien plus qu'un simple exercice de vérification. Si sa pratique pure, détachée d'analyse contextuelle, peut sembler limitée, son véritable potentiel émerge lorsqu'il sert de prisme pour comprendre les dynamiques sociales sous-jacentes. Le pré-bunking, bien qu'efficace dans la prévention de la désinformation, relève davantage de la communication finalement que du journalisme classique. L'enjeu n'est donc pas tant de multiplier les fact-checks, mais de les utiliser comme outils pour identifier et traiter les tensions sociétales qui favorisent l'émergence des fausses informations. C'est dans cette approche analytique que le fact-checking trouve sa vraie valeur et peut réellement impacter les audiences.
La question de fond, c'est que de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, mais si on est dans un monde où on a complètement décrédibilisé les journalistes pour une partie de la population et les contenus qu'on fait, de toute façon, notre travail devient inutile. Peut-être que Doppelganger, ça marchait pas forcément, mais le travail de sape de la Russie et d'autres pour en fait dire vos gouvernants vous mentent, associés aux scientifiques, associés aux chercheurs, associés aux journalistes, ça marche. Et ça marche très très bien. Et c'est le danger fondamental de notre société en ce moment. Et je pense qu'on ne réglera pas la question dans ce podcast, malheureusement. Même si on peut avoir des idées. Mais...
Encore merci à Julien Pin pour cet entretien. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Signal sur Bruit un podcast consacré à l'étude de la manipulation de l'information.